Alors, bonjour à tous pour ceux qui n'étaient pas, que je n'ai pas pu dire bonjour. Alors, au début de semaine, je me suis rappelé que, ah, tiens, c'est moi dimanche, je dois partager la parole pour nous tous. Et donc, lundi, je dis, mince, j'ai rien du tout, j'ai rien à cœur, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je me mets en prière, et puis tout d'un coup, le Seigneur parle sur ce qui est la vérité, enfin, bibliquement, quoi. Mais c'est qu'une partie de la vérité, parce que toute la vérité ne pourra pas être révélée là en une demi-heure de temps. Il me faudrait plusieurs jours. Il y a tellement de choses à dire sur la vérité de Dieu et sa parole. Et puis, lorsque j'étais enfant, non. Tout d'abord, j'ai cherché ce qu'était la vérité dans le monde. Et j'ai remarqué que il y avait plusieurs philosophies sur la vérité et plusieurs théories surtout, hein. Alors, je me suis mis en quête et puis j'ai vu une certaine chose auquel ça s'est passé en France, notamment en 1793, où la France a été vouée au culte de la raison. Et ce que j'ai été étonné, c'était que ce culte a eu lieu dans la cathédrale Notre-Dame. Et c'est cet endroit-là que ils ont fait un culte, c'est-à-dire les républicains, ils ont fait un culte sur la raison. Et après, j'ai vu aussi qu'il y avait une église où il est inscrit dessus, Temple de la raison et de la philosophie. Voici cette église. C'est une église qui se trouve à Saint-Martin-d'Ivry-la-Bataille. Et là, j'étais surpris et je me suis dit, Seigneur, par rapport aussi à cela, nous, en tant que chrétiens, dans nos prières, dans nos temps de repentance, on a aussi à nous repentir, ben, de ce que la France a vécu, a connu. Et ici, nous avons les traces, les marques de ce que la République a fait par rapport au culte de la raison. Et quand j'étais enfant, j'aimais bien jouer aux cow-boys et aux indiens. Prenons par exemple la pratique d'un avant-poste. Elle consiste à organiser des assauts surprises à l'aide de flèches enflammées. Ces flèches sont envoyées sur les chariots ou sur un chariot à bâche. Et ses occupants, ben, sont focalisés sur l'incendie plutôt que sur l'attaque de l'ennemi. Dans cette tactique, les flèches enflammées sont utilisées pour distraire. Notre ennemi veut nous distraire. Pour nous aveugler, il ne tire pas des flèches sans discernement. Il a une stratégie sur mesure pour chacun de nous. Il connaît nos tendances et nos habitudes, nos peurs et nos faiblesses, les plus profondes. Ce sont ces domaines en particulier qu'il vise. Son intention de nous détourner en déclenchant un certain nombre d'incendies internes dans notre vie, comme l'insécurité, l'intimidation, l'anxiété, l'inquiétude ou l'agitation. Il veut nous déconcentrer, nous voiler notre appel, nous empêcher d'être celui que le Seigneur a revêtu de l'équipement pour la mission de porteur de la bonne nouvelle. Matthieu 11, 30. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Et je vous donne à porter ce que je vous donne à porter est léger. C'est un fardeau léger que le Seigneur nous donne. Cependant, parfois, c'est dur, lourd et nous fatigue, alors que Jésus nous dit que sa charge est facile et légère. Rappelez-vous, l'instrument principal de l'ennemi, c'est la tromperie. L'ennemi masquera la réalité avec des choses attrayantes et captivantes, nous séduisant loin des idées claires et tranchées. Il crée un monde fictif, donnant à ces choses insignifiantes et éphémères une valeur extrêmement précieuse et essentielle. Le produit qu'il offre, qui est si astucieux, allant jusqu'à détruire, à moins d'être certain de connaître ce qui est vrai et d'en être convaincu, comme un fondement solide pour éviter ces stratagèmes. Dans l'évangile de Jean, cet évangile dit 25 fois, Jésus dit en vérité, que l'on pourrait remplacer par vraiment ou amen. Amen qui veut dire assuré, établi, ou par interjection, ainsi soit-il. Il ne peut pas être autrement, c'est comme ça. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à être debout et à marcher. À marcher sur le seul chemin, sur la seule vérité qui donne vie. C'est Jésus. Il est le bon berger et il est la porte. Dans Jean 17, Jésus a dit « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. »
Je suis la porte.
Jean 10, 11, « je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous avons vu dernièrement quand dans Éphésiens 6, 14, Paul dit « c'est pourquoi réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Christ lui luira sur toi. » Il n'y a pas un seul autre chemin qui donne vie. Jésus est le seul chemin et la vérité. La vérité est le pivot sur lequel repose entièrement une vie remplie par la foi. La vérité de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit et la Bible fournissent à tous fournissent le plan, le dessin, le schéma ou l'orchestration permettant à notre connaissance et notre foi de grandir et de s'épanouir. Il y a une situation de ma vie professionnelle où j'étais en porte-à-faux avec un collègue et moi, bien sûr, j'étais questionné et par rapport à la réponse, c'était forcément une réponse qui était vraie. Mais mon chef, le directeur, a préféré entendre mon collègue qui était, lui, dans le mensonge. C'était la première rencontre que j'avais eue avec ce directeur, c'était un tout nouveau directeur. Et donc, forcément, le premier rapport avec lui fut délicat et compliqué. Une deuxième fois, je me suis retrouvé aussi dans une situation où je devais me justifier par rapport à la vérité. Il m'accusait d'avoir mis au fond d'une remorque une livraison que je n'avais pas faite. Et puis que moi, j'avais dit non, pas du tout. C'était la marchandise qui n'était pas dedans dans la SMI et qui a été rajoutée après et retournée chez un transporteur. Et par l'esprit, je pense, je lui ai dit comme ça, bah, écoutez, si vous croyez que moi, je ne vous dis pas la vérité, téléphonez simplement au concurrent, c'est-à-dire au transporteur concurrent, et demandez-leur où est-ce qu'elle a été la marchandise. Et je leur ai dit que si elle se trouvait au tablier de la remorque, c'est moi le responsable, donc ça serait ma faute. Mais si elle se trouvait à l'arrière de la remorque, donc c'était les gens du quai qui avaient rajouté au soir. C'est ce qu'il fit. Il téléphona. Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, que je disais la vérité. Ça, c'était le deuxième point. Et après, une troisième fois, je me suis retrouvé aussi à nouveau à conflit par rapport à cette vérité auquel je devais me justifier. Il m'accusait d'avoir cassé un marchepied d'un Renault pour et puis ne pas l'avoir dit. Alors, je savais qu'il y avait un collègue qui avait le même tracteur que moi et puis qu'il n'y avait plus de marchepied. Moi, j'ai dit, non, c'est complètement faux, c'est quelqu'un qui me l'a pris, point, c'est tout. Et trois jours après, qu'est-ce que je vois? Le tracteur du collègue qui avait un marchepied, donc le mien. Et je l'ai fait, et donc j'appelle le directeur et je lui dis, voilà, regarde, est-ce qu'il est là? le marchepied qui était absent, qui était manquant, il se retrouve là. Donc, il a confronté cette personne, ce collègue, mais malheureusement, il a dû perdre sa place parce que par ce mensonge et par cette tricherie, il a été malheureusement licencié. Alors, souvent, nous sommes confrontés à la vérité et auquel on doit vivre cette vérité. Et bien sûr, à chaque fois auquel je me suis dans cette situation, je me reposais sur la grâce de Dieu, qui, lui, met en lumière toute chose. Et cette vérité a été mise en lumière par la grâce de Dieu. Et ce qui est marrant aussi, c'est que longtemps après, j'ai su que ce directeur a été licencié parce qu'il était, n'était pas apte justement à vivre une telle place de responsabilité. Il prêchait le faux plutôt que de connaître le vrai, pour savoir le vrai. Mais il était vraiment pas social. Donc cette personne a été licenciée et ça, je l'ai su longtemps après. Et je m'en suis réjoui quelque part. Parce que c'était une, comment dire, un loup dans l'entreprise. Et pour nous, chrétiens, eh ben, c'est vrai que devant cette situation, des fois, ben, on a un combat. Et le combat a été mené, et le combat a été gagné par le Christ. Et j'ai dit, merci Seigneur, parce que tu as fait ta justice. Et sa justice était là. Bien sûr, on n'a pas à se réjouir de malheur des autres. Mais quelque part, avec la situation, différentes situations que j'ai vécues, c'était quand même une certaine souffrance et une attente aussi. Une attente de voir que Dieu puisse venir rétablir toutes choses. Mais nous avons besoin aussi de nous, c'est-à-dire d'être construits solidement sur cette vérité qui est en Jésus-Christ. Sans cette vérité, nous n'avons rien de solide sur lequel accrocher notre bouclier de la foi. Et la patience aussi permet aussi à la foi de grandir. Connaître et vivre la vérité de Dieu à son sujet, telle que révélée par l'Esprit Saint et par sa parole, est essentiel. Si nous voulons vivre notre foi de manière responsable, et ainsi avoir l'avantage d'être protégé par la cuirasse, le casque et le bouclier, positionnons-nous sur cette vérité. Au commencement de toute chose, la parole existait déjà. Jésus, qui est la parole, était avec Dieu. Il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. C'est Jésus, le Fils, qui est la parole de Dieu. Jésus est venu pour purger le monde.
Juger.
Là, il y en a plus là. Jésus est venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il n'est pas venu pour purger. Mais pour juger, et non pas pour juger, mais pour la sauver. Si tu crois dans ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Dieu n'est pas la source de la maladie. Dieu a plusieurs noms dans la Bible, mais parmi tous ces noms, aucun ne le présente comme la source de la maladie. Voici comment il est présenté à Israël. Je suis l'Éternel qui te guérit. Celui qui vole la santé détruit le corps et tue. C'est le diable, par sa tromperie, la séduction au jardin d'Éden. À cause de cela, le diable fut maudit et l'homme avec. Mais ça passe plus chez toi. Genèse 3,15, Dieu a dit, Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Nous lisons par ce verset qu'il y a une postérité du serpent. Les êtres humains se distinguent par leurs origines, leur couleur de peau ou encore leur morphologie. Mais au regard de Dieu, il n'existe que deux races, la race élue et la race de vipère. Nous faisons donc forcément partie d'une de ces deux postérités qui se font perpétuellement la guerre. D'ailleurs, si je vous rappelle, dimanche dernier, c'était l'Église persécutée. Étant de la race élue, comme l'évoque un Pierre de Neuf, mais vous, vous êtes de la race élue, vous êtes la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière.
Amen.
Vous pratiquez les œuvres de Christ. Contrairement à nous, la race de vipères est animée par la méchanceté qui la pousse à pratiquer les œuvres des ténèbres. Et elle est donc destinée au supplice de la géhenne. Matthieu 23, 33. Dès la chute de l'homme, le Seigneur prend l'engagement solennel de créer une inimitié, une guerre quotidienne entre la postérité de la femme et celle du serpent. Jésus a dit « Race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Matthieu 3, 7. Ceci dit, il nous faut savoir qu'étant de la postérité de la femme, nous sommes vainqueurs de ce combat. En effet, la tête du serpent a été écrasée et ce dernier est donc inoffensif. Nous devons nullement avoir peur de lui. Jésus enseigne que le Père, qui guérit à travers lui, Dieu le Père, est donc la source de la guérison. Dieu n'est pas à l'origine de nos maladies. Et on peut prier là en dire « Père, je renonce au mensonge que tu es à l'origine de la maladie. Je confesse que tu es celui qui guérit, que tu es bon et que tu veux notre bien. » Amen. Amen. Notre guérison est la volonté de Dieu. Le fatalisme qui puise sa source sur la philosophie de la raison enseigne que tout ce qui se passe sur la terre est la volonté de Dieu. Cette conception est un mensonge qui empêche la foi d'être agissante et nous prive de tout espoir. En effet, pourquoi prier pour la guérison si la maladie est la volonté de Dieu? Pourquoi prier le Notre Père si tout est la volonté de Dieu? Si Jésus nous demande de prier pour la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, c'est précisément parce que la volonté de Dieu n'est pas encore accomplie sur la terre. Par contre, elle est accomplie parfaitement au ciel et nous donnera un corps incorruptible qui ne sera jamais malade. Nous n'avons pas besoin de convaincre Dieu de nous guérir. C'est sa volonté. Nous devons donc prier que sa volonté soit faite dans notre corps. Pour que nos prières soient efficaces, nous devons prier avec foi selon la volonté de Dieu. Un lépreux est venu voir Jésus et dit « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus dit « Je le veux. » Puis il la toucha et la guérit sur le champ. Jésus a accompli notre guérison en souffrant à la croix à notre place. Jésus a versé son sang pour nos péchés. Une mort sans souffrance n'aurait-elle pas suffi? Pourquoi avoir le dos déchiqueté par le fouet romain? Pourquoi avoir la barbe arrachée et être frappé au point d'être défiguré? Pourquoi mourir crucifié, étouffé après une longue agonie? Verser le sang de Jésus pour le pardon de nos péchés aurait été suffisant si Dieu avait uniquement voulu sauver nos âmes. Mais il voulait aussi nous guérir. Si Jésus a souffert, il a été blessé et torturé, c'est pour que nous soyons guéris. Et pour cela, c'est pour cela que la Bible distingue d'un côté le sang de Jésus qui nous pardonne et de l'autre ses meurtrissures qui nous guérissent. Le temps de Dieu pour la guérison, c'est pour maintenant. Notre foi s'appuie sur des promesses certaines. L'expression « en son temps » est parfois utilisée pour masquer que l'on doute de Dieu de guérir aujourd'hui. Jésus a déjà souffert pour toutes les maladies de l'humanité. Ses meurtrissures, ses blessures n'ont pas servi pour que nous soyons en bonne santé au paradis, mais sur la terre. Fixons nos yeux sur Jésus et écoutons-le dire à notre esprit. Je le veux, sois guéri. Ensuite, posons notre main sur notre corps et prions ainsi. Père, que ta volonté qui est de me guérir soit faite maintenant dans mon corps. Merci Jésus d'avoir donné ta vie pour me sauver et d'avoir souffert pour me guérir. Je crois que tes souffrances sont pour moi et je reçois ta guérison. Alors après, on pourrait se poser des questions. Pourquoi certains ne sont-ils pas guéris? Et ça, je ne vais pas développer là-dessus, ce n'est pas le sujet. Mais il y a 20 réponses à cela.
Tu ne pourrais pas leur donner?
Non, c'est pas non.
Ah, d'accord.
Alors, j'aimerais avoir un retour de chacun, parce que ce n'est pas forcément facile et évident. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle vraiment à nous construire sur cette foi, croire qu'il veut nous guérir, croire que c'est la volonté du Père. S'il a vécu cette souffrance à la croix, ce n'est pas pour rien, c'est pour maintenant, c'est pour aujourd'hui. Alors bien sûr, certaines choses auxquelles on doit chercher Dieu et connaître Dieu. Parce que des fois, les difficultés, ça peut être aussi une mauvaise alimentation, ça peut être aussi un manque de pardon, l'amertume, la rancune, auxquelles nous sommes, par la connaissance de Dieu et puis par le Saint-Esprit, tout mis en avant, révélé, pour que nous puissions justement avoir une attitude de repentance, de pardon pour envers une personne. Et être conduit par cela, donc en obéissant à la parole de Dieu, recevoir la guérison. Alors, ce que j'ai été étonné de par rapport à ça, c'est que le serpent, il a une postérité. Et en voyant ce monde qui se déchire, ce monde qui souffre, la haine, le mensonge qui domine, je me dis, là, il y a vraiment une postérité. Mais, merci Seigneur, nous avons un devoir, c'est d'annoncer l'Évangile pour qu'ils puissent entendre l'Évangile et recevoir la vie. À vous la parole.
Merci Didier. Monique, t'as pas mis ton micro.
Très à l'aise ce matin.
Merci Didier. Moi, j'aimerais intervenir. C'était par rapport à Paul qui avait des souffrances et que le Seigneur n'a pas guéri et qui dit « Ma grâce te suffit ». Donc, la non-guérison, c'est peut-être pas toujours forcément un manque de pardon. Dieu autorise quand même. Même son disciple a souffert et il l'a pas guéri. Enfin, voilà, c'est dans la parole quand même. Donc, C'était, oui. Voilà, je voulais partager ce petit...
Ce sont des vérités, tout ça. Hein. Ce sont toutes des vérités. Mais il est venu aussi pour nous libérer, nous guérir, hein, nous pardonner, nous sauver. Et ça, donc, chacun, bien sûr, on aura déjà la défaillance à cause du péché originel. Nos corps se limitent à une centaine d'années pour certains, pour plus, pour les plus âgés. Mais nous sommes limités et puis nos corps se dégénèrent.
C'est inéluctable, ouais. C'est dans la loi.
C'est dans la loi à cause du péché d'Adam.
Ouais.
Je l'ai pardonné.
Ce que je trouve de ce que tu viens de dire, Monique, c'est libératoire aussi de savoir que c'est pas forcément le fait que nous ayons des choses à régler, que Dieu ne nous guérit pas. C'est peut-être aussi, comme tu le dis, que de la grâce nous suffit et que nous devons avancer avec ce qu'on a, avec notre bagage. Et mais je crois que parce qu'il peut avoir un mensonge à croire que Dieu ne nous guérit pas parce qu'il y aurait quelque chose que j'ai oublié dans un fond de tiroir et du coup tu serais dans quelque chose d'une culpabilité qui serait là sur toi, une chape qui t'empêcherait de voir la vérité, qui t'empêcherait de voir que Dieu veut t'amener à quelque chose de plus haut. Alors, c'est vraiment pas évident. Cependant, ça peut être aussi ce que tu disais, Didier, effectivement, des choses qui sont là derrière toi que tu ne veux pas affronter et que tu laisses... c'est comme le clou hein, qu'on accroche au mur et que Satan met des choses dessus, des peaux de bêtes mortes et que ça sent mauvais dans ta maison. C'est un petit peu cette image-là. On pourrait avoir aussi ça.
Oui. Et en même temps, quelque part aussi, la maladie, elle peut être permise aussi dans le sens où, comme moi, quand j'ai connu mon appendicite, le temps où Dieu te parle aussi, te met à part, il te parle. Et puis, c'est un temps aussi que tu es beaucoup plus à l'écoute. Parce que je me souviens la semaine où j'ai passé, à cause de l'infection, c'était du 24-24 avec le Seigneur, quoi. À chaque réveil, à chaque moment, c'était le regard, la pensée, le cœur tournait vers Dieu. Et Dieu parle à ce moment-là aussi. Et Dieu utilise ces moments-là. Alors, bien sûr, il aurait certainement aimé que je ne souffre pas. C'est certainement, hein. Mais le problème, c'est que dans la vie courante, j'avais passé 24-24. J'avais des petites laps de temps. Donc, quelque part, mais l'importance, je crois qu'il ne faut pas culpabiliser. Il faut se dire que cherchons la face de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Quelle est la vérité de Dieu? Et cette vérité, elle est écrite dans la parole. Et Dieu veut me guérir. Mais par contre, la guérison ne vient pas. Pourquoi, Seigneur? Montre-moi. Ce n'est pas forcément un péché, ça peut être aussi une formation. Il y a plein de facteurs qui peuvent nous amener justement à connaître davantage le Seigneur, dans n'importe quelle situation. Mais il y a cette promesse qui est là, Dieu, il est celui qui me guérit. Si on se rappelle de 2 Chroniques 7,14, si mon peuple s'humilie et cherche ma face, ça veut dire que quelque part, on a une démarche aussi d'humilité et de chercher la face de Dieu, dans n'importe quelle circonstance. Moi, quand je travaille et puis je me blesse, je me dis, Seigneur, je n'ai pas été habile sur ce geste, je me suis fait mal, je me dis merci Seigneur, et je dis merci Seigneur en plus. Et quelque part, la douleur me fait arrêter et me remet en question. Toujours devant sa face, toujours dans le regard tourné vers Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à cette situation? Tu veux forcément m'enseigner.
ce matin, dans le semi-sommeil, je pensais justement à Géran qui souffre énormément avec son genou. Là, ça, et je me disais, mince, toutes les prières qui l'entourent, et je me posais la question. Et j'ai eu cette image du marathonien qui souffre aussi pour atteindre un but. Et je me disais, il y a une promesse derrière cette souffrance. C'est, il y aura une grande récompense pour Géran, je pense, par rapport à toute sa souffrance qu'elle a depuis des mois et des mois. Donc voilà, ça rejoint peut-être un peu ton enseignement. Et oui, je pense que Dieu veut guérir, mais là, la souffrance qu'elle a et toutes les prières qui l'entourent, ça dure quand même depuis quelques mois. Donc, je me dis, il y a quand même le but final, certainement, pour Géran, qui aura une grande récompense, quoi. Voilà.
Merci.
Je sais qu'en tant que chrétien, il faut quand même faire toujours très attention à ce qu'on dit, parce que moi, quand j'ai eu mon cancer, je me souviens très très bien que quelqu'un est venu me voir, une chrétienne, et m'a dit, est-ce que dans ta vie, il n'y a pas quelque chose qui n'est pas réglé et que Dieu te donne cette maladie pour cela? Et moi, ça m'a fortement, comment dire,
interpellée,
mais en même temps peinée, parce que ça m'a encouragée, quoi. Mais en même temps, c'est vrai que je me suis remise en question. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui n'a pas été réglé? Il n'y avait rien de particulier à ce moment-là, quoi. Donc, je pense qu'il faut quand même être très prudent dans ce que l'on dit quand la personne est malade. Parce que, voilà, ça peut quand même faire beaucoup de mal. Et je pense que parfois aussi, Dieu permet la maladie, je dis le mot « permet », parce que à travers la maladie, je pense que moi, personnellement, dans mon expérience, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris de Dieu. Et j'ai pu témoigner de Dieu quand j'étais en chimio à des gens que je ne rencontrerai plus jamais. Donc, je pense que, voilà, il y a tous… voilà, c'est vrai que dans notre vie, parfois, on peut avoir des choses qui ne sont pas réglées. Mais il y a aussi des situations où on tombe malade et il n'y a pas forcément des choses à régler, que Dieu permet pour un but. Peut-être j'avais besoin de passer par là pour apprendre, pour encore être davantage avec le Seigneur et pour pouvoir annoncer cette bonne nouvelle à des gens qui étaient à côté de moi en chimiothérapie.
Voilà. Dieu peut se servir d'un passage à l'hôpital, comme c'était mon cas, quelques jours au mois de mai, pour m'apprendre l'abandon. Moi, je sais que Dieu m'a mis à l'hôpital pour apprendre quelque chose au niveau de m'abandonner à lui, de m'abandonner, de lâcher prise totalement. Voilà, l'apprentissage de l'abandon. Pour moi, c'est vraiment important.
Lâcher prise.
Oui.
Moi, jeudi, je suis allée voir l'ostéopathe parce que je souffrais tellement que je me suis dit, bon, bah, peut-être que l'ostéopathie va pouvoir me régler mes épaules et puis dans deux jours, je serai guérie. Donc, j'y suis allée. C'est un petit jeune de 25 ans qui commençait son métier. Et puis, il a commencé à parler tout. Il m'a dit, commencé à parler de choses et d'autres. Et puis, il a dit, moi, je suis chrétien. Bah, j'ai dit, moi aussi. En fait, plutôt que de me soigner, on a parlé pendant une heure de Jésus alors que je voulais me détendre. Mais il avait tellement soif d'entendre ce que moi, je vivais dans la foi. Je lui ai dit que je faisais partie de l'église de Wavrin, et lui, il était dans l'église catholique, il dit, l'église catholique, ça commence à se mourir, c'est que des personnes âgées, tout ça, mais je dis, nous, on fait des belles choses aussi, je dis, dans l'église où on est, on joue, on danse, voilà. Mais pendant une heure, j'ai dit à Jésus, j'étais là pour me détendre, et Jésus me met là, avec cette personne-là, et puis pendant une heure, on a parlé de Jésus. Bon, quand je suis sortie de là, j'ai dit, ma foi, si mes bras, ils peuvent être guéris, mais c'était plutôt pour ça, voilà. Et moi, Irma, quand elle est tombée malade aussi de son cancer, je lui ai pas dit à Irma, est-ce que dans ta vie, est-ce que ceci, cela. J'ai beaucoup prié pour elle et à travers son cancer, elle est revenue à Jésus. Et c'est une personne qui va partout, qui parle, qui témoigne de Jésus, qui prie pour les uns, pour les autres. Et elle a complètement changé sa vie en bien. Hein, elle aime les gens, elle les encourage, même dans son travail, si elle peut parler de Jésus, elle le fait. Et son cancer lui a permis de retrouver cette foi avec sa famille. Voilà. Donc, le Seigneur utilise. Et moi, dans ma maladie, quand je suis partie samedi à SOS Médecin, j'ai dit à Jésus, bah, tu as mis aussi des médecins sur ma route. Je te demande de mettre la personne que toi tu veux. Et c'est vrai que cette personne, on a bien discuté ensemble. Bah, tout de suite, il était énergique. Il m'a dit, bah, prise de sang, radio. Il m'a mis en confiance. Et je sais qu'à travers, ce que je vais faire, bah, j'aurai une réponse. Parce que Jésus, il est là et j'ai confiance en lui. Et je ne regarde pas si j'ai un péché parce que je suis malade ou tout ça. Non. Je lui appartiens à Jésus, je suis enfant de Dieu. Il m'a dit que je lui appartenais, je faisais partie de son royaume et j'ai confiance en lui. Donc, il va me mettre, si ce n'est pas par lui, si c'est pas Jésus qui va venir guérir tout de suite, parce que Didier prie tous les jours pour moi, puis ben, je ne vois rien. Hein. Mais je sais que le Seigneur va me guérir autrement. Enfin, voilà, j'attends.
Pour revenir sur ce que disait Monique par rapport à Paul, Paul, il a cherché la face de Dieu par rapport à sa maladie. Et il a eu la réponse, c'est que ma grâce te suffit.
Oui, c'est ça.
Il a cherché la volonté de Dieu.
Oui, il a dû supporter.
Je pense aussi que, en tant qu'être humain, on veut une réponse à toute chose. On veut une explication. À chaque fois que l'on passe par une étape, par une situation, on veut absolument une raison. On veut absolument connaître le pourquoi. Mais je pense qu'au-delà de ça, d'une part, Dieu, il sait ce qu'il fait, et Dieu a ses raisons. S'il ne répond pas, ou s'il répond, il a ses raisons. Dieu sait ce qu'il fait, et d'autant plus quand on est enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, c'est vrai, on a à rechercher la face de Dieu. On a à rester dans sa présence. Mais quelle que soit la situation, qu'ils répondent ou qu'ils ne répondent pas, ça ne doit pas nous perturber ou être un problème. Je dis cela parce que, comme le disait tout à l'heure Monique, il y a l'histoire de Paul, mais dans notre situation d'aujourd'hui, j'ai bien entendu des gens qui sont complètement invalides et ça ne les empêche pas d'une part, d'aimer Dieu, d'une part, d'honorer Dieu pour ce qu'il est, et de ne pas chercher forcément à savoir le pourquoi ils sont toujours dans ce fauteuil roulant, pourquoi ils sont tout le temps dans cette invalidité, pourquoi ne répond-il pas, pourquoi Dieu ne répond pas, est-ce que Dieu aurait-il changé? Non, ce n'est pas cela. On est appelé surtout à faire confiance à Dieu. On est surtout appelé à savoir que nous sommes enfants de Dieu et que, quelle que soit notre situation, Dieu est en charge. Dieu a ses raisons. Dieu n'a pas à nous donner tout le temps une raison pour la situation par laquelle on passe et pourquoi il répond, pourquoi il ne répond pas. La Bible dit, et c'est ce que l'Esprit m'a donné tout à l'heure, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Ça ne veut pas dire forcément qu'il est obligé forcément de nous guérir comme cela. Bien sûr que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons guéris. Mais la volonté de Dieu, c'est surtout que notre âme soit sauvée. La volonté de Dieu, c'est surtout que l'on connaisse Jésus-Christ pour ce qu'il est en tant que Sauveur et Seigneur personnel. La volonté de Dieu, c'est de savoir que Christ nous a rachetés. La volonté de Dieu, c'est de marcher, de se tenir ferme sur le chemin où il veut que l'on soit. Dieu a ses raisons. Dieu a toujours ses raisons. Et c'est pour ça qu'il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Parce que, en fait, le plus important, c'est de savoir que la grâce de Dieu, elle est sur nous. La grâce de Dieu nous garde. On n'a pas à douter. La foi, ce n'est pas le doute. Le contraire de la foi, c'est le doute. Et le doute, c'est un péché. Nous sommes appelés à marcher par la foi, de croire que Jésus-Christ a tout pouvoir sur la terre comme au ciel, que si je me trouve dans telle ou telle situation, il y a une raison. Mais cette raison, elle nous sera certainement révélée un jour, parce que nous voyons comme au travers d'un miroir, nous dit la parole de Dieu. On n'a pas les explications à toutes choses, mais le jour où on rencontrera Jésus, il nous sera révélé pourquoi telle ou pourquoi telle situation, pourquoi j'ai vécu tel combat, pourquoi je n'ai pas eu la réponse à cette question, pourquoi j'ai dû subir ceci, pourquoi je... Voilà. Mais en tout état de cause, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'envers et contre toute situation, nous croyons qu'il est le Dieu véritable, qu'il est l'Éternel, le Tout-Puissant, et qu'il règne.
Amen. Marie, vas-y.
Amen.
Allô, c'est moi.
Oui, vas-y. Bah, vas-y, tout le monde.
Ah, oui. Vas-y, Dany.
Alors, moi, j'ai été souvent malade, et j'ai eu une première chose, la maladie, devant la maladie, il faut être humble. Parce que nous sommes des êtres humains et il y a Dieu au-dessus de nous. Et Dieu fait des choses qu'on ne comprend pas. Pour ma part, je n'ai pas peur de dire que pendant une longue période de maladie que j'ai connue, j'ai eu par moments des découragements et j'ai pas peur de dire, j'ai dit bon, maintenant, je ne prie plus. Sinon, ça ne sert à rien. Mais, très vite, j'ai été repris par Dieu. Et de nouveau, j'ai trouvé le chemin de la prière et de la foi. Et je crois que Dieu comprend ces situations. Parce que Dieu sait ce que nous sommes chacun et chacune. Pour ma part, je suis un être humain. Et cet être humain que je suis, malheureusement pour certains, parfois, dans la maladie, j'ai douté, j'ai perdu la foi, mais je l'ai récupéré. Et je peux vous dire une chose aujourd'hui, c'est que je vais nettement mieux et que je fais des choses qu'il y a 15 jours, je n'aurais pas pu faire.
Merci.
Et croyez-moi, je loue Dieu, je le remercie dans sa grâce. Une fois de plus, il m'a sauvé. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il m'a sauvé tant de fois de la maladie depuis ma naissance. Merci Seigneur, et merci Seigneur de m'avoir exaucé dans cette dernière maladie, malgré parfois des doutes vis-à-vis de lui. Mais Dieu est resté fidèle avec moi. Voilà, je voulais partager.
Merci Dany.
Merci. Ouais. Dany, je pense à quelque chose de toi, hein, puisque on a fait ensemble un parcours personnel, hein, tu m'as fait un accompagnement. Et ta maladie, je pense aussi, te permet de comprendre la souffrance de celui qui souffre. À travers ta chair, à travers ce que tu vis depuis si longtemps, depuis ta tendre enfance, depuis ta naissance même. Je pense que voilà, Dieu a voulu aussi peut-être, hein, je mets des guillemets, mais tu l'as compris à travers cette relation avec Dieu que tu as perdu, que tu as retrouvé, que voilà, c'est un cheminement. Mais il me semble que Dieu aussi, ce que tu vis au quotidien, te permet d'intercéder, je dirais, pour celui qui souffre. Et il me semble que tu as quelque chose à ce niveau-là de très puissant. Quand ta prière, elle est active pour autrui, elle est puissante. Alors, je te remercie, Dany. Merci beaucoup.
Je voudrais témoigner encore une chose. Je connais dans mon ancienne église, Lovive, un jeune d'une trentaine d'années qui était gravement malade, il était handicapé. Et ça me faisait mal au cœur de le voir, il faisait des crises d'épilepsie. Et par la foi, j'ai toujours prié pour que ce garçon qui a une trentaine d'années, il soit complètement guéri. Pour l'instant, il n'est pas complètement guéri, c'est malheureux. Pour moi, c'est une grande tristesse de voir cet homme qui a un amour fou pour Jésus, en plus de ça, malgré son handicap, malgré un handicap mental. Il prie, il chante, et sa maman est témoin de ça. Je l'ai eu au téléphone dernièrement. Elle est triste de voir son enfant comme ça, mais elle dit il a un grand cœur et il prie souvent pour... il prie aussi, lui, pour les malades. Et j'espère que les garçons, malgré tout, ça, c'est un peu fou ce que je dis, mais j'aime bien que le garçon soit complètement guéri parce que, au fond, c'est pour ça que ça me travaille. J'aurais dû être comme ce garçon fortement affligé suite à des maladies de ma jeunesse. Et grâce à Dieu, grâce à des prières, ben, je suis comme je suis.
Je voudrais encore intervenir si c'est possible, mais c'est pour la gloire du Seigneur. C'était dans un temps où il y avait encore des conventions de Pentecôte avec, j'ai oublié son nom. Donc ça se passait à Lisieux.
Oui. Freddy de Coster.
Oui.
Freddy de Coster, voilà, merci. Et donc ils avaient prié une soirée pour un jeune homme handicapé qui était en fauteuil. Et on priait pour lui. Et bon, on n'a pas vu les résultats tout de suite. Voilà. Moi, ça me faisait mal au cœur aussi. Voilà, ce jeune homme, voilà, qui reste dans son fauteuil. On prie et puis, voilà, il n'y a rien. Et je ne sais plus si c'est l'année d'après ou l'année suivante. On l'a revu debout, qui marchait. Voilà, donc Dieu est encore à l'œuvre, même s'il y a quelques années. Et on a été témoins. Joël, mon ami Joël, ma sœur dans la foi, était présente. Et voilà, c'est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux.
Alors, j'aimerais revenir sur ce que je viens de vous dire. C'est que à travers ces promesses que Dieu guérit, c'est qu'on puisse refuser tout mensonge.
Oui.
C'est surtout là, il faut refuser le mensonge de l'adversaire, de vouloir nous tromper et de proclamer ce que Christ a accompli. Non seulement il nous a lavé de nos péchés, mais aussi il nous guérit, il nous restaure, il nous libère. Et c'est là auquel je veux mettre en évidence cette lumière et de la proclamer et de la vivre et essayer de vivre ces promesses qu'il nous donne. Je refuse la maladie. Bien sûr, je serai encore malade, c'est certain. J'ai une dégénérescence osseuse, j'aurai certainement des douleurs, mais Dieu peut me régénérer et Dieu peut me guérir.
Il attend.
Mais je me refuse à toute maladie. Et bien que je souffre aussi dans mon corps. Et parce que je veux ses promesses. Je veux sa gloire, je veux sa lumière, je veux sa victoire.
Et en même temps, ce que Serge a souligné me paraît très très important, accepter de continuer d'avancer sans connaître toujours toutes les raisons. Samuel Peter Schmidt, qui était interviewé par Eric Sellerier récemment, certains ont écouté peut-être, il a expliqué que des chrétiens voulaient absolument connaître les raisons pourquoi cette église a eu tant et tant et tant d'attaques de tout genre. Et Samuel Peter Schmidt a dit c'est le défaut du chrétien de vouloir à tout prix comprendre les pourquoi du comment, etc.
Ah, d'accord.
Et il a expliqué aussi que, ben oui, il y a eu des décès, pourquoi tous ces décès? Mais après, il a continué à avoir des guérisons quand même dans l'église. Alors ça nous dépasse. Donc, si on veut comprendre les raisons pourquoi à un moment il y a eu tous ces décès, puis à d'autres moments il y a eu toutes ces guérisons, je pense que, il me semble que ça fait partie de l'abandon aussi. S'abandonner, c'est continuer d'avancer sans connaître toutes les raisons. En sachant, toutes les réponses, pardon. En sachant que, ben oui, on est sous la grâce quand même. On est sous la grâce de Dieu. Et c'est ça le plus important.
Est-ce que, comme tu dis, Jean-Luc, c'est que des fois, je pense que quand on voit des malades, ou par exemple des gens, comme tu disais, en fauteuil roulant, on peut voir aussi avec nos yeux comme ça, mais on ne voit pas, Dieu lui voit les yeux par le spirituel, en fait. Il sait que cette personne, il va l'utiliser là où elle est, à cet endroit où elle est, mais lui, il voit le chemin, en fait, dans le spirituel comment oui. Cette personne, elle va pouvoir toucher des gens ou comment son parcours après à elle, de pas forcément elle a son propre parcours et que ce, même si elle n'est pas guérie, Dieu va l'utiliser en fait par sa foi, par la grâce qu'elle déploie, il va l'utiliser dans la vie d'autres parce qu'en fait c'est un peu comme les gens qui ont été guéris par Jésus. Ils ont été guéris, oui, mais ils n'ont pas tous accepté Jésus. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens aussi qui ont le don de guérison, mais eux, dans leur vie personnelle, ne sont pas guéris. Pourquoi ils ne sont pas guéris? Ils ne demandent pas forcément à Dieu. En fait, ils ont arrêté de demander à Dieu la guérison, mais ils savent que, par exemple, ils ont ce don de guérison et par ce don de guérison, ils vont pouvoir toucher des gens qui leur sera beaucoup plus utile pour le royaume de Dieu parce qu'en fait, ils vont avoir cette possibilité. Le don de guérison, c'est gratuit, en fait. Ce n'est pas que pour les croyants, c'est pour les non-croyants. Après, ces gens-là, ils vont être guéris. Ils vont accepter Jésus ou non, mais c'est un don de guérison aussi qui va leur être donné. Et ils auront à rendre compte plus tard, lorsqu'ils rencontreront Dieu, de ce qu'ils ont fait, en fait. Mais c'est aussi la guérison, un don, en fait, qu'on n'explique pas. Et ce n'est pas par le nombre de prières qu'on va adresser à Dieu, du pourquoi, etc. C'est quelque chose que Dieu va... Parce que Dieu sait, en fait, là où il nous a placés, le chemin, les gens qu'on va rencontrer, le témoignage qu'on va apporter, de ce que l'on va endurer, de ce que la maladie, en fait, même va faire à nos corps. Et on n'a pas forcément à chercher le pourquoi, en fait. Dieu sait, et c'est de se dire, Seigneur, toi, tu vois, nous, on voit avec nos yeux, par exemple, cette personne qui est malade, nos yeux charnels, mais toi, tu vois avec des yeux spirituels. Lorsqu'on était dans une église en Angleterre, il y avait une femme, elle avait même pas 40 ans, et elle a eu un cancer, en fait, ça l'a pris en 15 jours. Et on n'a pas cherché au pourquoi, en fait, pourquoi. C'est vrai qu'elle avait son mari venait de la quitter, il l'a trompée, elle a eu ça qui est arrivé en 15 jours, elle est partie. Mais le Seigneur savait, en fait, je pense que le Seigneur, dans ce qu'elle allait, dans ce qui était son parcours après, il l'avait déjà prévu. Et donc, il nous a fallu accepter de voir par les yeux spirituels qu'on nous l'a repris. Ça a été un témoignage énorme, sa vie, pour l'Église, pour les gens autour. Mais voilà, on a accepté. Il faut accepter que Dieu est Dieu et qu'il ne guérit pas. Mais à côté de ça, il fait d'autres choses autour, en fait. Et c'est à nous d'utiliser, en fait, et de voir au-delà, en fait.
Nous avons un exemple dans le Nouveau Testament, où les premiers disciples, eh bien, ils passaient par beaucoup de détresse, ils passaient par beaucoup de conflits avec eux-mêmes, mais de conflits aussi avec la société dans laquelle ils se trouvaient à l'époque. Cela n'empêchera pas Paul de dire dans la lettre des Corinthiens et à 2 Corinthiens, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion. » Le Père plein de compassion est le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. On n'a pas à fuir la détresse. Des fois, cette détresse va servir pour être une bénédiction. Parce que toutes les épreuves que l'on passe ne sont pas forcément néfastes. Elles sont bien souvent une bénédiction. Alors, ça peut paraître comme cela un peu bizarre dans notre raisonnement, mais il ne faut pas le voir par le mal. Mais bien souvent, si Dieu permet une chose, c'est que derrière, il y a toujours quelque chose d'autre qui se passe. Bien souvent.
Justement, j'aurais voulu vous lire un extrait d'un livre qui parle de l'époque de Jésus, justement, comment les gens vivaient à l'époque, justement par rapport même à la maladie. Enfin, voilà, je me permets de vous lire cet extrait parce que c'est vraiment parlant. Ça montre la vision que les gens avaient à l'époque de la vie et de la mort par rapport à nous dans notre société actuelle. Alors, ça, c'est vraiment il y a 2000 ans, hein. Partout, on croisait les naufragés de la société, mendiants, estropiés, malades de toutes sortes, l'aveugle et le fou qui erraient dans les rues, et les vieux, mots qui englobaient à peu près tous les gens de plus de 45 ans. On ne vivait en général pas jusque-là. Bien des femmes enceintes ne survivaient pas à la grossesse. Les jeunes mouraient d'appendicite, de fièvre, de paralysie, dans d'affreuses douleurs. L'asthme étouffait les enfants, la cataracte et les tempêtes de sable provoquaient de nombreux cécités. Les ravages de scorbut et du beriberi étaient endémiques et tout le monde souffrait de sérieuses carences en vitamines. Toujours il y a 2000 ans, hein. Les os fracturés aboutissaient à des déformations et des handicaps. Les blessures s'infectaient entraînant de graves maladies du sang et souvent la mort. La contagion était fort répandue, comme aussi la débilité physique, la malnutrition, les maladies nerveuses, les troubles mentaux et neurologiques. Toutes sortes de problèmes de peau, de brûlures, d'eczéma étaient rangés sous la redoutable appellation de lèpre, affection fort répandue et généralement considérée comme un signe de la colère divine. On ne connaissait guère de remède pour la plupart des blessures, sauf nettoyer les plaies ou percer les abcès, préparer les cataplasmes à base de fruits écrasés, appliquer des herbes, des racines ou encore un mélange d'huile et de vin. La mort hantait chaque foyer, compagne ordinaire, la plupart des enfants décédés avant l'âge de 3 ans. Quant aux survivants, la guerre leur réservait beaucoup d'adversité et bien peu de plaisir. Même une personne de bonne volonté devait connaître des moments d'accablement. Néanmoins, on n'éprouvait pas le sentiment que la vie fût injuste. Attitude plutôt plus volontiers cultivée dans notre monde moderne, habitué au café instantané et au remède miracle. Ce n'est peut-être qu'au XXe siècle qu'un grand nombre d'êtres humains ont commencé à attendre de la vie qu'elle leur apporte le bonheur et la santé, qu'elle soit parfaite, c'est-à-dire facile, soumise à ce que nous voulons, à ce que nous pouvons. Aujourd'hui, la maladie nous choque. La mort des enfants nous paraît le signe de l'indifférence de Dieu, de l'hostilité de l'univers. Une telle attitude ne se rencontrait pas il y a 2 millénaires. La vie et la mort n'étaient pas dispensées de manière juste ou injuste. Elle était ce qu'elle était. Voilà tout.
Ouais, moi, ça m'intéresserait bien de lire le livre.
Oh, il est exceptionnel. Ça s'appelle « Un inconnu nommé Jésus ».
Si tu l'as lu, j'aimerais bien le bouquiner et te le rendre après.
Et vraiment, ça remet tout dans le contexte de l'époque. Ah ouais. Nous, à côté, on se plaint toujours.
C'est vrai.
On parle d'hygiénisme avec la pandémie actuelle aussi. On est pile poil dans cet hygiénisme-là, quoi.
Et on est vraiment, je dirais, il faudrait rester humble, quoi. Moi, je cherche pas finalement à trouver la réponse pourquoi la souffrance. On l'aura jamais, la réponse. Il faut rester humble. Voilà, Dieu permet des choses, mais il travaille nos cœurs. En même temps.
C'est ça le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir toujours trop raisonner, ouais, ou trouver ou chercher une solution à quelque chose. Or, bien souvent, par exemple, le décès de quelqu'un que l'on ne va pas comprendre, comme ouais, par exemple quelqu'un qui va partir à quel que soit l'âge, 20 ans, 40 ans, et on ne va pas comprendre. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis? Oui, mais qu'est-ce qu'on sait de ce qu'aurait été son futur s'il était resté sur Terre? Peut-être que Dieu l'a enlevé justement pour ne pas permettre qu'il passe par des situations qui auraient pu être beaucoup plus catastrophiques. C'est vrai que c'est toujours douloureux de perdre un être cher. C'est toujours douloureux de vivre certaines situations, notamment, par exemple, quand on a la perte d'un enfant ou comme cela. Mais bien souvent, si c'est arrivé, d'une part, c'est que Dieu l'a permis. D'autre part, un enfant, d'emblée, il est sauvé. Il n'y a pas de problème avec le départ d'un enfant à partir du moment où Dieu le reprend. C'est bien quelqu'un qui l'a dit dans la Bible, Dieu donne et Dieu reprend. Mais est-ce qu'on est capable de dire « Béni soit l'Éternel » derrière? Parce qu'en fait, notre vie ne nous appartient pas. Les éléments dans lesquels ne nous appartiennent pas, c'est Dieu qui construit toutes choses. Nous sommes sa créature et il est notre créateur. C'est lui qui décide. D'ailleurs, tout a été inscrit dans le livre de la vie, c'est bien ce que nous dit la parole de Dieu. Il connaît le départ, mais il connaît aussi l'arrivée. Mais nul ne peut dire que je vais aller plus loin ou je vais aller plus court. Ça appartient à Dieu. On n'a pas à vivre dans des raisonnements, simplement à accepter la réalité et de croire que ce Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu créateur et qui nous veut que du bien.
Amen.
Merci. Mm-hmm. Pour moi, c'est un bon débat. Hein.
Ben oui.